pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, il y a les éléphants qui piétinent les cultures au Kenya, les tigres qui tuent le bétail des éleveurs en Malaisie, les loups qui attaquent les brebis dans les Pyrénées françaises. La liste des conflits entre les hommes et les animaux sauvages s'allonge car nous grignotons de plus en plus leurs espaces pour installer nos activités, notamment agricoles. Mais dans le parc du W au Niger, c'est l'inverse. Le parc du W, c'est l'une des réserves de faune les plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Lions, éléphants, buffles, antilopes vivent protégés sur ce territoire, inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO depuis 1996. Mais la cohabitation avec les hommes qui habitent autour du parc est difficile. Malgré les interdictions, ils continuent de prélever des ressources dans le parc, alors que les animaux sauvages, eux, pillent les champs et attaquent le bétail. Alice Milo est allée à la rencontre des membres de Kogezo, une ONG nigérienne qui essaye de les réconcilier. Cette ONG fait partie du PPI, le Programme des Petites Initiatives, un programme du FEFEM, le Fonds français pour l'environnement mondial, géré par le Comité français de l'UICN.
C'est pas du vent sur RFI.
Là, on est juste à l'entrée du parc et tout de suite, on voit la rivière Tabwa en fait, qui sert de frontière de limite nord du parc. Donc, le seul passage pour entrer à l'intérieur du parc W du Niger, c'est en passant au-dessus de la rivière par le pont.
Et donc là, de l'autre côté du pont, là on...
De l'autre côté du pont, c'est le parc.
Le parc W.
Le parc W.
Hop, et voilà, ça y est, on est rentré dans le parc.
Oui. Il s'est appelé W à cause de la forme que prend le fleuve Niger et à ce niveau, au niveau du parc. Parce que le fleuve Niger longe le parc W sur 75 km. Il forme un grand W très visible depuis l'avion.
Et alors, ce qui fait la particularité de ce parc, c'est qu'il a été classé au patrimoine national de l'UNESCO.
Et le parc, vous voyez, c'est pratiquement le plus grand parc transfrontalier, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, et situé entre plusieurs pays, et sûrement le plus riche actuellement. Donc,
en termes de diversité de faune.
En termes de diversité de faune. Nous avons les éléphants, nous avons l'hippotrague, ou antilope cheval, ou coba, ou les Anglais disent run antilope. Nous avons les lions aussi.
Classé patrimoine de l'UNESCO, ça veut dire qu'il est ici interdit d'avoir toute activité humaine. C'est-à-dire que dans l'enceinte du parc n'est tolérée aucune habitation, ni aucun prélèvement, aussi bien sur les animaux que sur la flore en fait.
Par exemple, la chasse, et l'agriculture, la cueillette, même dans le noyau central de la réserve de biosphère, c'est interdit.
Et bien sûr, il n'y a aucun village à l'intérieur du parc.
Il n'y a aucun village à l'intérieur du parc.
Ça secoue, hein?
Oui, ça secoue.
En tout cas, la piste est bien chaotique par endroits.
Hein. Oui, oui, oui. Et encore, celle-là, c'est une bonne piste. Hein. Attention.
Attends. Qu'est-ce qu'il y a?
Ah, c'est l'hippotrague. Attends. C'est l'antilope cheval.
Ah, elle est très haute.
Oui, mais elle est grande, l'antilope. C'est la deuxième plus grande antilope.
Ah, elle nous a
vu. Ah, oui, oui.
Elle s'enfuit.
Elle s'enfuit. C'est la deuxième antilope la plus grande d'Afrique. À peu près la même taille qu'un cheval.
Et des cornes.
Avec des cornes énormes, surtout sur le mâle. Kabande Kena. Un chacal qui fuit.
Il vient de disparaître là-bas dans les
fouilles. Oui. C'est un chacal. En fait, c'est son heure pour sortir aussi.
Ce qui caractérise la végétation qu'on est en train de traverser là, c'est que finalement, ce sont de petits arbustes avec de la paille, en fait, de l'herbe séchée.
Oui. Mais là, on est vraiment dans une savane arbustive. Attendez. Je vois que c'est Redonka. Si tu peux retourner un peu derrière. Ça, c'est un babouin. C'est un babouin. Bon, généralement, il circule en groupe. C'est sûr que le reste de la troupe est devant. Oui, effectivement, vous voyez de l'autre côté. Voilà le reste de la troupe, vous voyez.
Ah oui, ils sont nombreux, là.
Ils sont nombreux. Généralement, vous voyez, le mâle dominant, il peut rester derrière pour fermer la marche, pour éviter que les petits prétendants, là, ne viennent autour des femelles. Donc, dès qu'il les voit, il les chasse.
Là, qu'est-ce qu'on vient de voir passer? On vient de voir deux petits derrière blancs, là. C'était quoi?
Un couple de rébis. Donc, l'une des plus petites antilopes que nous avons ici, dans le parc W. Je les aime beaucoup, elles sont sympathiques, elles sont mignonnes et puis elles sont toujours en couple. Et les couples, généralement, c'est pour la vie. Ouais. Aussi une proie facile pour les carnivores. Donc, surtout le guépard, il peut les attaquer et le léopard. Parce que pour le lion, bon, c'est pas beaucoup de viande, quoi. Elle n'est pas grande, donc ça ne va pas lui suffire. Même s'il bouffe, il sera obligé d'en chercher un complément. Forcément, ça attire
la sympathie.
L'oppressé est toujours bien aimé.
Donc là, Karim, en fait, on a franchi de nouveau les portes du parc. On est sorti du parc W. Et en fait, là, on se dirige vers les villages qui avoisinent le parc. Hein. Voilà, on arrive, on voit les premières maisons. Ça, c'est la place du village?
Oui, ça, c'est la place du village. Donc, évidemment, quand on vient, c'est là on rencontre les gens.
Bonjour, Alice.
Bonjour,
bonjour, enchanté, bonjour monsieur. Les relations entre les habitants qui habitent dans les villages à la lisière du parc W et les animaux sauvages qui viennent du parc sont très conflictuelles. Depuis des années, Abdulkarim Samna de l'ONG Cogeso travaille à réduire ce conflit entre les humains et la faune sauvage. Karim, là, on est en train de rentrer dans Moli.
Oui, effectivement, on est en train de rentrer dans le village de Moli. C'est l'arbre à palabre. À l'été, il y a la mosquée qui est juste à côté. Elle est fermée parce que ce n'est pas l'heure de la prière. Moli, donc, qui est l'un des villages qui a très souvent des problèmes avec la faune, des problèmes de cohabitation avec la faune. Le village il n'est pas très loin du parc. Nous avons une des limites qui est à moins de 5 km ici sur le côté est. Donc les animaux du parc ont l'habitude de sortir, de venir ouvert les cultures pour les herbivores, ouvert le bétail, surtout pour la carnivore.
Combien de villages sont concernés?
Ça concerne pratiquement tous les villages périphériques. Donc, disons les plus proches, une quarantaine qui sont directement concernés.
Qui longent le parc W.
Mais nous intervenons dans 8 principaux villages. Il y a des informateurs dans plusieurs villages qui nous rapportent des informations liées aux incursions de la faune sauvage dans les villages périphériques du parc W. Là, c'est une fiche de collecte. C'est ça qu'il vient de me remettre, lui. C'est un des informateurs locaux.
Donc, dès qu'il y a une attaque, en fait, les informateurs de ce village, comme monsieur, vont noter sur cette feuille.
Ils vont noter sur cette feuille. Donc, il me montre en fait une image. Bon, c'est une image d'animal attaqué par une hyène.
Donc, c'est un mouton qui a été attaqué par une hyène?
Oui, par une hyène. Oui, c'est d'autres images qu'il est en train de me montrer. Donc on peut voir la carcasse, ça a tout bouffé, il n'y a rien qui reste quoi. L'estomac, les intestins sont dehors de l'animal là.
Vous l'avez pris quand monsieur cette photo?
Je l'ai pris dimanche, il y a 2 semaines.
Et comment vous savez que c'est une hyène qui a attaqué le mouton?
En fait, des enfants ont surpris la hyène en train d'attaquer le mouton. Ça l'a fait fuir. Mais ensuite, on a vu des empreintes au sol.
Ça arrive souvent ?
Dans ce village, ça arrive toutes les nuits.
Et effectivement, quand vous passez certaines fois la nuit, vous entendez les hyènes ricaner tout. Donc quand elles ont l'occasion, en tout cas, elles prennent.
Ici, nous avons surtout des problèmes avec les hyènes côté carnivore et avec les hippotraques côté herbivore. Ils mangent nos cultures.
C'est ça qu'on appelle antilope cheval, en fait. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure dans le parc. On a vu deux ou trois fois ces hippotraques.
Bonjour. Ça va ? Vous êtes en train de piler le mil ?
Oui, on est en train de piler. On va travailler de piler.
Vous avez quel âge ?
J'ai 15 ans.
C'est comment ton prénom ?
Je m'appelle Abdou.
Est-ce que parfois vous avez peur des animaux sauvages qui viennent faire des incursions jusqu'ici ? Est-ce que ça vous fait peur ?
Oui, j'ai peur des hyènes, des lions et des éléphants. J'ai peur de me faire mordre.
Ils s'en sont déjà pris aux habitants ?
Ils s'en prennent plutôt au bétail, aux chèvres et aux moutons. Mais un jour, mon oncle s'est fait attaquer par un lion. C'est arrivé dans les environs, tout près d'ici. Il a été grièvement blessé et il est mort.
Donc face aux attaques des animaux sauvages qui viennent du parc et qui s'en prennent à leur bétail, qui s'en prennent à leur culture, les habitants qui vivent autour du parc s'organisent, essayent de trouver des solutions à leur échelle. En l'occurrence, là on est en route vers un éleveur qui a construit un enclos avec l'aide de l'ONG Cogeso pour protéger ses animaux. Donc là on est en train de marcher au milieu des champs, c'est un peu éloigné du village. Donc là on s'approche à un grand enclos qui est construit avec des branches d'arbres.
Oui, c'est même ça, c'est avec des branches d'arbres et du grillage, et une espèce d'arbre qu'on appelle le boma.
On rentre ?
On rentre.
C'est vous l'éleveur à qui appartient cet enclos, c'est ça ?
C'est ça.
Alors là l'enclos est vide, ils sont où vos animaux ?
Ils sont partis en brousse pour se nourrir.
Vous avez quoi comme animaux ?
60 moutons, 35 chèvres et 15 vaches.
Cet enclos, vous l'avez construit il y a combien de temps ?
Ça fait 2 mois et 3 jours. Avant cet enclos, nos animaux se baladaient partout jour et nuit. Et les lions et les hyènes venaient la nuit, ils les dévoraient. L'enclos est très utile car depuis que nous l'avons fabriqué, il n'y a plus d'attaque.
Vous avez eu beaucoup d'animaux, vous, qui ont été attaqués par les hyènes et les lions ?
Oui, il y en a eu beaucoup. Je me rappelle en particulier d'une nuit où j'ai une quinzaine de moutons qui ont été attaqués. Je m'en souviens parfaitement parce que c'est une perte énorme pour nous.
C'était il y a combien de temps ?
En 2012. Ça m'a choqué parce que mes animaux, c'est toute ma vie. Je vis grâce à eux. Tout d'abord, ils nous sont utiles pour produire du fumier pour nos champs. Mais aussi quand nous rencontrons des périodes de famine ou quand nous avons des problèmes de santé qui occasionnent une grosse dépense. Donc, ils sont très importants pour nous.
Vos animaux, c'est votre épargne.
Oui, parce que nous n'avons aucune autre activité génératrice de revenus.
Pourquoi cet enclos, vous avez attendu si longtemps pour le faire ? Vous n'auriez pas pu le faire vous-même, l'enclos ?
La technique nous manquait. L'ONG nous a montré comment faire et elle a aussi financé le grillage, parce que nous n'avions pas les moyens de l'acheter nous-mêmes.
Depuis 2 mois que vous avez cet enclos, clairement vous avez des résultats, c'est-à-dire que vous n'avez plus aucune attaque depuis que l'enclos a été mis en place ?
Oui, maintenant je peux dormir tranquille.
Ces animaux qui agressent votre bétail, ce sont des animaux qui sont protégés. C'est-à-dire que les hyènes, les lions qui attaquent votre bétail, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Vous n'avez pas le droit de faire des représailles, vous n'avez pas le droit de les tuer. Est-ce que vous comprenez pourquoi ces espèces sont protégées ?
Ma mère s'est fait attaquer par un lion. Et cette année-là, j'ai eu du mal à comprendre qu'un animal soit mieux protégé qu'un être humain. On a même été jusqu'à la préfecture pour leur demander pourquoi on protège mieux les animaux. Mais bon, autant renoncer à ça parce que on ne peut rien y faire.
Samna, qu'est-ce qui pousse les carnivores du parc W à venir se servir dans le bétail des humains qui vivent à côté ?
Quand l'animal sauvage vient dehors, c'est pas pour rien. C'est sûrement parce que Ce qu'il a l'habitude de trouver là-bas, sur place, plus facilement, il ne l'a pas trouvé. Donc, il vient le chercher de ce côté, parce que l'humain, lui, il a été de l'autre côté déjà prendre la ressource réservée normalement à cet animal sauvage. Certaines fois, les proies que les hyènes ont l'habitude de trouver là-bas sur le terrain,
dans le parc,
ils ne trouvent plus ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de braconnage, il y a eu pour la viande principalement tous les herbivores, les éléphants, et pour certains trophées ou bien certaines parties qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle, certains carnivores.
Quelles sont les pénalités sur le braconnage?
Ah, ça varie selon les espèces. Hein. Ça va de la petite amende jusqu'à plusieurs années d'emprisonnement ferme. Donc ça dépend de l'espèce et puis...
Donc il y a encore une forte pression de braconnage à l'intérieur.
Il y a une forte pression, mais il arrive donc quand il y a tous ces problèmes-là, c'est normal que la hyène ne trouve pas ce qu'elle a l'habitude de trouver. Donc elle vient prendre ce qui est plus facile. Mais le problème de la population ne fait que s'agrandir. Donc les gens ne savent pas ça. Donc nous, on essaie de leur faire comprendre que chaque fois que vous faites ça, c'est à votre population, vous êtes en train de faire du tort. Parce que plus les animaux vont devenir rares là-bas, et plus, quand je dis les animaux, je parle des proies, et plus vous aurez beaucoup plus de pression, parce que les carnivores, là, il faut qu'ils mangent. Donc, ils vont mettre la pression sur votre bétail. Et c'est ça la situation conflictuelle qui se pose. Toi, tu occupes mon espace, moi, je sors pour occuper ton espace. Donc, le problème est dans les deux sens. Et les villages qui mettent la pression sur les ressources du parc, et de l'autre côté, la faune qui met la pression sur les ressources des riverains. Et là, c'est comme si le boomerang vous envoie et ça vous revient. C'est pour ça qu'on donne beaucoup de crédit à la sensibilisation. Il faut amener les gens à comprendre que, en fonction des actes qu'ils vont poser, la suite viendra d'elle-même.
Là, Karim, on est au bord du fleuve Niger, qui est très haut en ce moment parce qu'on vient juste de sortir de la saison des pluies. Oui. Donc, il est vraiment à sa hauteur maximum. Et là, on va emprunter cette pirogue, c'est ça?
Oui, et on va descendre le fleuve, on va aller vers le sud, donc pour arriver au village de Karekopto, qui rencontre pas mal de soucis. Ils sont attaqués par les animaux sauvages, et principalement les hippos et...
Les hippopotames.
Les hippopotames, oui, c'est ça. Et on va aller voir, nous essayons en tout cas de sensibiliser la population là-bas et puis et aussi de faire quelques activités compensatrices.
Donc là, on embarque sur cette jolie pirogue en bois, c'est ça? Et on va faire 40 minutes de navigation jusqu'au village.
Jusqu'au village, oui.
Alors on y va, donc je grimpe, hein. Hop. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce fleuve, donc, il longe le parc du W, hein, sur 75 km, c'est ça?
Exactement, sur 75 km. Nous avons d'un côté la population riveraine qui y vit, et de l'autre côté, nous avons le parc qui est un endroit protégé, donc où en tout cas l'accès est contrôlé. Et vous pouvez remarquer la différence sur les berges. Là, c'est complètement dépourvu de toute végétation.
Donc, côté humain,
côté
en fait.
Côté humain, c'est surtout la surexploitation.
Mais par contre, il y a des terres agricoles. Hein,
il y a des terres agricoles. Et de l'autre côté, vous voyez les berges du parc qui sont totalement couvertes par la végétation.
Il y a des
hippos, il dit, ah oh, il y a des hippos ici. Ah, ils ont plongé, oui, oui.
On voit leur tête qui sort de l'eau là.
Tête qui... Ils respirent, excuse-moi, l'air atmosphérique. C'est un mammifère.
Là, c'est le couple qu'on voit, les deux qui sortent la tête.
Oui, oui.
On est à peine à 10 mètres là. En tout cas, on voit vraiment leur tête très très bien. Là, on voit leurs grosses narines avec leurs yeux globuleux.
Des petites oreilles avec une grosse tête, il faut dire, pas un long museau, mais une tête énorme.
Donc,
ils sont blancs et gris, rose et gris même.
Ils sont un peu plus roses.
Donc en fait, là, les hippopotames quittent le parc régulièrement et ils viennent de l'autre côté de la rive.
Ils viennent de l'autre côté et manger les cultures des humains. Ils s'accueillent parce que ça consomme quand même, ça bouffe énormément.
Et donc ils arrivent et ils piétinent tout.
Ils piétinent tout, ils dévorent tout, je dirais. Ils dévorent tout parce que ce qu'ils peuvent consommer en une nuit, c'est énorme. Mais je pense qu'il doit remettre le moteur parce que, en fait,
Des
pirogues comme ça, non. Pour des pirogues comme ça, c'est risqué en tout cas de...
Ah, on risque de se renverser.
Oui, ils peuvent considérer qu'on est en train de les agresser parce qu'on les a approchés de très près.
Bon, bah remettons le moteur si on ne veut pas se faire renverser alors.
Qu'est-ce que ça a dit l'engine car. Qu'est-ce que tu...
Donc là, on est en train d'approcher de Kerekopto.
Mmh. Oui, donc le village de Kerekopto, il se caractérise en tout cas par très peu de terres cultivables.
Parce qu'on voit, il y a la falaise qui est tout
autour. Il y a la falaise tout autour, mais il y a très peu d'espace cultivable, de terres arables plus précisément. On va accoster juste à côté là où vous voyez les femmes en train de laver la vaisselle au bord du fleuve.
Alors on descend.
Oui,
on descend.
Hop. Bonjour. Bonjour.
Ya Moualim.
C'est le chef du village?
Non, c'est pas. C'est le marabout du village. Kajeku. Alhamdulillah.
Donc chacun mène sa vie. Là, il y a des jeunes hommes qui vendent de la canne à sucre, les femmes qui font la vaisselle dans le fleuve,
c'est ça.
Et les hommes qui traînent sous l'arbre à palabres.
Chacun est dans ses occupations, c'est ça l'ambiance du village.
Et bien sûr, les animaux qui se baladent partout, hein, les biquettes, les poules, les moutons,
oui,
les ânes.
Oui, oui. Et vous voyez, c'est au sein du village.
C'est une vraie basse-cour, le village d'une basse-cour.
Maintenant, chacun est occupé. Hey, chez vous.
On arrive près des rizières, c'est ça?
C'est ça, on est en train d'aller vers les rizières. Là, dans nos discussions, il y a quelqu'un qui vient de dire que les hippos sont passés dans son champ.
Cette nuit?
Oui, cette nuit. Donc on va aller juste voir et à quoi ça ressemble. Et puis voir réellement, concrètement, l'ampleur des dégâts.
Ça, c'est les rizières?
Ça, c'est des rizières qui viennent juste d'être repiquées.
Donc là, on arrive au milieu d'un champ de citrouilles. Et effectivement, il y a des énormes empreintes d'hippopotames dans la terre.
Arrêtez, c'est sorti de l'eau par là.
Ouais. On voit les quatre doigts en fait.
Oui. C'est des sortes de palmes, ça lui permet de bien nager en réalité, la forme là. Ça date de cette nuit.
Ouais. Et donc en fait, l'hippopotame, parce que là on est juste à 1 mètre du fleuve, hein, donc l'hippopotame il est sorti de l'eau par là, mm-hmm. Et il est venu se servir directement
il
ici.
Il est venu
quoi.
Se servir ici. En fait, rien que le fait de son passage, c'est destructeur parce que ça piétine. Donc, et vous voyez ici, regardez. Regardez l'extrémité, le bourgeon est coupé.
Le bourgeon de la citrouille.
Le bourgeon de la citrouille est coupé. Donc ça va mettre du temps, en tout cas, avant de reprendre de notre côté.
Vous êtes un des agriculteurs de Kerekopto?
Ali Moussa.
Je m'appelle Ali Moussa. Je cultive la citrouille et le riz.
Est-ce que ça arrive souvent, les attaques comme il y a eu là cette nuit d'hippopotame, est-ce que ça arrive souvent?
Ça dépend de la période. Quand les plantations sont bien hautes, matures, après qu'on se soit bien fatigué à semer, labourer, entretenir, ça peut arriver tous les jours que les hippopotames viennent dans les champs. Mais pendant les semis, ils ne viennent pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, monsieur, quand vous arrivez le matin et que vous voyez vos champs qui sont saccagés? Vous avez quelle émotion?
Quand je me réveille et que je trouve ma nourriture détruite, ça me casse complètement. Je me mets juste à prier le bon Dieu pour qu'il m'amène de la nourriture pour préserver ma famille contre la faim. Avant, on avait beaucoup de touristes qui venaient d'Europe pour visiter notre village Karikopto et observer les animaux du parc. Ça nous amenait de l'argent et ça compensait nos pertes. Mais pour des raisons de sécurité, les touristes ne viennent plus. Donc nous avons toujours les dégâts, mais plus de revenus.
Est-ce que vous avez essayé de mettre des choses en place pour empêcher les hippopotames de venir dans vos champs ?
On a installé des épouvantails pour les effrayer, mais les hippopotames ont évolué et se sont adaptés. Aujourd'hui, ils n'y font même plus attention.
Et d'ailleurs, les hommes se vengent puisque il y a eu des exactions des populations contre les hippopotames ces dernières années ?
Oui, pas ici directement, mais un peu plus en amont du fleuve. Dans une localité qu'on appelle Ayuru, il y a eu en tout cas des représailles des hommes sur ces hippopotames, où il y a eu plusieurs dizaines qui ont été massacrés par la population.
Pour se venger d'avoir massacré leur rizière ?
Voilà, parce que cette population en avait assez de supporter les dégâts causés par ces hippopotames sur leur culture.
Mais ils les ont tués comment ?
Avec des harpons. Ils ont organisé des battues donc avec des harpons. Ils sont rentrés dans des pirogues et ils sont partis partout où ils ont trouvé les hippopotames. Là, ils se sont mis à les attaquer.
Ils en ont tué combien ?
On parle d'un nombre de tout de 21 hippopotames. 21 hippopotames.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez appris que 21 hippopotames avaient été massacrés ?
Oui, pour quelqu'un qui aime la faune, forcément, et surtout connaissant que ses ressources sont en train de s'amoindrir dans notre pays, donc ça fait extrêmement mal.
Les hippopotames aujourd'hui sont une espèce menacée, ça fait partie de la liste de l'UICN des espèces menacées.
Oui, exactement, et plus particulièrement chez nous, c'est menacé. Sinon, leur nombre est en train de chuter dangereusement. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, on avait une soixantaine d'individus ici, exclusivement le long du fleuve Niger. Hein.
60 hippopotames.
Aujourd'hui, je ne suis pas sûr si on a plus d'une trentaine.
Donc ça veut dire qu'en l'espace de 15 ans, ça a réduit au moins de moitié la population d'hippopotames.
On a le nombre de 30 là. Là, on vient de voir 4-5 individus. Donc...
Mais pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas dans le parc ? Ils n'ont pas assez à manger là-bas ?
Parce que la population humaine va de l'autre côté faucher l'herbe nécessaire, en tout cas...
Leur nourriture.
Leur nourriture, si vous voulez, et la nourriture des hippopotames. Donc pour venir stocker, certaines fois pour les périodes dures, donc du coup les hippopotames n'ont plus à manger de l'autre côté et ils viennent manger les cultures des humains. Et en le faisant, au fil du temps, ils y prennent goût. Donc ils reviennent très souvent.
Donc c'est quand même à cause des hommes que les hippopotames ont quitté le parc, sauf que maintenant les hommes sont en train d'en payer le prix fort en fait.
Exactement. Ça va dans les deux sens.
C'est un cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux. Chaque fois que les humains vont prendre ce qui est censé appartenir aux animaux sauvages, eux aussi ils viennent de ce côté prendre ce qui est censé appartenir aux humains. Ah, moutei. Bon, mais malheureusement, il y a des incursions quotidiennes, tous les jours.
Mais c'est pas possible de contrôler les rives du parc ?
C'est carrément impossible de contrôler parce que nous avons 75 km de fleuve. Il faut un agent peut-être tous les 100 mètres. Mais c'est carrément impossible. Je vous parle de 75 km de berge. Il en faudrait peut-être 400, 500. Quand tu es dans la nécessité, tu as faim, tu aperçois de l'autre côté les ressources. Mais c'est pas facile de te dire non, n'y touche pas. Il faut laisser pendant que ton ventre est en train de gronder et toute la nuit, c'est pas facile. Et surtout quand tu as de la famille, bon, le chef de famille, généralement, face à l'intérêt de ses enfants, il n'hésite pas. Thank you.
pour encourager les habitants de Carré-Cocteau à ne plus prélever de ressources naturelles dans le parc W qui est juste en face de leur village, l'ONG nigérienne Cogeso propose des solutions compensatrices, notamment à travers des activités génératrices de revenus. Et à Carré-Cocteau, c'est sur l'apiculture que l'ONG a misé. Et les habitants nous emmènent justement sur l'une des ruches qui a été installée par l'ONG.
Il y a des abeilles dedans, en fait, c'est pour ça que les gens ne s'approchent pas.
Parce qu'elles sont très dangereuses ici. Hein.
Oui, ici, nos abeilles sont agressives comparativement à celles de l'Europe.
C'est vous, monsieur, le responsable des ruches ici ? Combien il y a de ruches dans votre village actuellement ?
Nous avons 80 ruches. On a commencé l'exploitation du miel en 2008 et on continue. Il y a deux semaines, on a encore placé deux nouvelles ruches.
De quelle manière le miel a changé votre vie ?
En une année, le miel me rapporte 100 000 francs CFA, environ 150 euros. On est 30 apiculteurs à en vivre. Moi, j'ai trois enfants qui vont à l'école, une fille et deux garçons. Ils réussissent tous. Il y en a même un qui va au lycée. Et ça, c'est à cause du miel. Ça les rend intelligents. Ici, notre plus grande crainte, c'est de nous réveiller sans avoir de la nourriture pour nos familles. Et donc, cet argent nous sécurise. Ça nous permet aussi de payer des frais liés à l'école, mais aussi de payer aux enfants de quoi manger quand ils vont en classe.
Est-ce que sans ce miel, vous auriez pu envoyer vos enfants jusqu'au lycée ?
Non, c'est clair, car il n'y a pas de collège ni de lycée ici. Il faut les envoyer en ville. Et donc il faut de l'argent pour payer l'hébergement et la nourriture. Parfois, je n'envoie même pas d'argent à mes enfants, mais directement du miel pour qu'ils le vendent sur place. Et ils utilisent l'argent pour leurs dépenses.
Ces ruches, les ONG sont venues aussi ici pour vous former à l'apiculture, aussi pour que, entre guillemets, en échange, vous preniez soin de l'environnement qui vous entoure, de la faune, de la flore, de ce parc W qui est juste en face de votre village. À quoi vous vous engagez, vous, en échange de ces ruches ?
Avant, on prenait le miel de manière anarchique dans le parc W. On se servait directement dans les essaims naturels sauvages qu'on trouve dans le creux des arbres. Pour récolter ce miel, on coupait l'arbre ou on y mettait le feu pour chasser les abeilles. Aujourd'hui, non seulement on ne le fait plus, mais on empêche ceux qui le font parce qu'on a pris conscience qu'il faut protéger notre ressource abeille.
Les activités compensatrices proposées aux villageois qui vivent autour du parc sont nombreuses. Dans le village de Wérégorou, l'ONG Cogeso a proposé aux femmes de créer une pépinière. Bonjour. Donc on est devant un enclos, on peut rentrer ?
Oui, vous pouvez rentrer.
On peut aller voir ?
On y rentre. Ici, nous sommes dans une pépinière des femmes.
Donc là, on rentre sous la pépinière. Donc en fait, c'est à l'ombre. Les femmes ont construit la pépinière à l'ombre des palmiers. Hein.
Oui.
Et on voit ici, il y a plus de 10 000 pieds en fait, de baobab. Alors, comme c'est une pépinière, ce sont de tout petits plants. Hein. On voit les pousses qui font juste quelques centimètres avec les feuilles fraîches, vertes.
Oui.
Donc là, la dame, elle est en train d'arroser justement les plantes baobab. Vous faites ça tous les jours ?
Oui.
Vous avez cette pépinière depuis combien de temps, en fait ?
Elle a presque un an.
C'est les feuilles, en fait, que vous récoltez pour faire la cuisine ?
Oui, c'est ça. On fait de la sauce avec les feuilles de baobab. C'est une sauce très nourrissante. En plus, elle est utile pour notre santé. Ici, nous n'avons pas de case de soins, donc c'est vraiment très important pour nous, ces feuilles. Elles nous soignent.
Ça vous protège, par exemple, contre quel type de maladie, en fait, la feuille de baobab ?
Surtout les maux de ventre. Comme la case de santé est très loin d'ici, à plus de 15 km, on peut donner la sauce aux malades plutôt que de l'emmener là-bas. Ou alors, ça permet de faire les premiers soins avant d'évacuer le malade. Avant cette pépinière, on allait dans le parc W cueillir les feuilles de baobab.
Avant, vous vous alimentiez avec ces feuilles de baobab en allant dans le parc national, hein, qui est à quelques 3 km d'ici, mais qui est une zone protégée dans laquelle vous n'avez pas le droit, en fait, de prélever ces feuilles de baobab, mais vous y alliez quand même. Comment vous faisiez, en fait, pour faire la cueillette dans le parc ?
On volait, on fraudait. Dès qu'on rentrait dans le parc, on était attentive à tous les bruits pour ne pas se faire surprendre par un forestier. Si on entendait quelqu'un arriver, on se cachait. Donc cette pépinière, ça a vraiment changé notre vie, car certaines d'entre nous, pendant la cueillette, tombaient des arbres et se cassaient un bras. D'autres se perdaient dans le parc et il fallait partir à leur recherche. Grâce à cette pépinière, tout ça, c'est fini. Maintenant, on va produire et vendre ces feuilles de baobab.
Ces feuilles de baobab, vous les consommez, mais en fait, dans le parc, ce sont les singes qui les consomment. En fait, vous étiez en compétition autour du baobab avec les singes, c'est ça ?
Oui, quand on trouvait les singes dans les arbres, là, on les chassait en tapant sur des bidons.
Est-ce que vous avez le sentiment que les gens préfèrent protéger les singes que vous protégez vous ?
Oui, on a ce sentiment. Ça nous fait très mal qu'ils préfèrent protéger les animaux sauvages plutôt que nous. La faim, c'est quelque chose qui te fait braver les interdits. On savait très bien que c'était interdit, mais on avait faim. Mais grâce à la pépinière, ça va mieux.
Karim, on a vu à travers les trois villages qu'on a visités des solutions que votre ONG COGESO avait apportées aux populations locales qui souffrent des conflits avec la faune du parc W. Et notamment, une des solutions envisagées, c'est l'enclos pour protéger les animaux d'élevage. D'autres solutions ont été de mettre en place des pépinières ou encore des ruches pour développer l'apiculture et proposer ainsi des solutions de compensation aux populations locales. Finalement, il semblerait que ce soit des solutions assez simples à des problèmes plutôt complexes, non ?
Parce qu'il y a beaucoup de méthodes, mais les unes plus coûteuses que les autres. Donc nous, on essaye de voir celles qui peuvent s'adapter au niveau de vie, au niveau technique aussi de ces populations, pour que même quand on ne sera pas là, que cette population puisse mettre en place ces dispositifs d'elle-même.
C'était un reportage de Alice Milo réalisé par François Porcheron.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait elle commence un petit peu à être sur le côté et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Vous le savez, vos choix de consommation sont comme des bulletins de vote. Si vous achetez un produit, cela veut dire que vous cautionnez toute sa chaîne de fabrication. Sinon, vous le boycottez et les ventes s'arrêtent. Enfin, faut aussi convaincre vos copains parce que par exemple, le Nutella, qui consomme un maximum d'huile de palme, responsable d'une déforestation massive en Asie du Sud-Est, remplit toujours les rayons. Autre aliment, autre impact, les crevettes. Au curry ou au barbecue, détruisent les mangroves. Pas les crevettes toutes seules, mais les élevages intensifs que nous en faisons, notamment en Asie et en Amérique du Sud.
Tout ce qu'il faut, c'est laisser traîner le filet au fond de l'eau. Dans un bon jour, tu peux attraper 50 kilos de crevettes. Enfin, comme je te disais, la crevette, c'est le fruit de la mer. On la fait au barbecue, bouilli, grillé, rôti, sauté.
Bonjour Yann Laurence.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du programme Biodiversité Écosystème de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et vous venez de publier avec des étudiants un rapport sur l'impact des élevages de crevettes sur les mangroves. Alors on va tout d'abord rappeler ce que sont les mangroves, ces écosystèmes assez particuliers.
Oui, les mangroves sont des forêts littorales. mais tropicales. C'est-à-dire que ce sont des forêts qui poussent sur les côtes basses, pas les côtes rocheuses, dans les zones entre les tropiques, globalement, avec des eaux chaudes, et qui sont, vous savez, ce sont ces forêts, parfois on parle de palétuviers, qui sont ces arbres avec des racines aériennes qui plongent dans la vase et qui poussent là où, quelque part, on a des marais, de la vase, et voilà, ce sont des forêts très riches, très denses, et spécifiquement littorales.
Ce sont des écosystèmes très riches.
Ce sont des écosystèmes très riches parce qu'ils sont tropicaux, donc déjà en général on est dans des régions où la chaleur, l'humidité permet à la nature de s'exprimer. En plus on n'a pas de limitation de l'eau, on n'est pas dans des zones arides et donc on a une très forte productivité biologique, c'est-à-dire ça produit beaucoup de bois, d'êtres vivants, c'est très riche en écologiquement.
Alors, où est-ce que l'on trouve des mangroves principalement ?
On en trouve dans toutes les zones intertropicales, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Océanie, Australie, etc.
Du coup, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de ces écosystèmes pour se nourrir, pour se loger.
Oui, on donne couramment le chiffre de 200 millions de personnes qui vivent dans ou aux abords des mangroves, et donc quelque part qui ont un lien avec les mangroves, avec ces forêts, soit parce qu'elles les protègent, soit parce qu'elles leur apportent des ressources diverses et variées.
Alors c'est aussi l'un des écosystèmes les plus menacés au monde aujourd'hui.
Oui, la déforestation dans les mangroves va encore plus vite, aller encore plus vite jusqu'à récemment que dans l'Amazonie, dans le bassin du Congo ou dans les grandes forêts indonésiennes par exemple. Le taux de déforestation est encore plus rapide. Je crois qu'on dit qu'à peu près 150 000 hectares par an de mangroves disparaissent chaque année. Alors ça peut paraître pas énorme quand on compare par exemple aux millions d'hectares qui disparaissent de la forêt tropicale d'Amazonie ou d'Indonésie. Mais en fait ce qu'il faut bien voir c'est que les mangroves ce sont pas des massifs, ce sont des lignes, c'est des forêts linéaires qui peuvent faire quelques centaines voire quelques kilomètres d'épaisseur. Donc en surface c'est pas énorme, mais en linéaire c'est énorme. Et donc on perd un capital très rapidement voilà, on a déjà perdu à peu près un tiers de ce capital en quelques décennies.
Alors vous essayez de leur rendre justice à l'occasion notamment de la Journée mondiale des zones humides. Et alors elles disparaissent massivement, vous l'avez dit, et la moitié de ces destructions est due en gros à l'élevage des crevettes. Alors quel lien on fait entre l'élevage des crevettes et les mangroves ?
Oui, c'est ce qu'on dit. C'est la première cause de disparition des mangroves, c'est l'élevage de crevettes mondialement. C'est variable selon les régions. Hein. C'est surtout vrai en Asie et en Amérique latine. C'est pas vrai en Afrique, par exemple. Quelle est la raison ? La raison, c'est que maintenant, dans certains cas, pour élever des crevettes, on coupe les arbres. Et à la place des arbres, on va installer des bassins avec des petites digues dans lesquelles on va élever les crevettes. Et donc, c'est de la déforestation. De même qu'on coupe des arbres pour faire du soja en Amazonie, là, on va couper des arbres pour installer des crevettes dans des bassins. Or, ces bassins sont utiles pendant 5, 6, 7 ans. Et ensuite, ils sont plus fonctionnels et on les abandonne et on va chercher un peu plus loin. D'où la progression de ce phénomène.
Et d'où le fait que dans votre rapport, vous dites que la crevette est désormais l'ennemi juré des mangroves.
En tout cas, dans une partie de la production et des modes de production, oui, ce type de production paraît être vraiment la première cause de disparition de ces forêts.
Alors vous disiez, les mangroves sont principalement dans les zones tropicales. Or, les consommateurs de crevettes n'habitent pas là où il y a les mangroves.
Alors, ils habitent aussi là où il y a les mangroves, bien sûr, notamment les Asiatiques consomment des crevettes. Mais les premiers marchés de destination de la crevette, c'est les marchés riches, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et le Japon. Nous sommes les premiers consommateurs et importateurs, en tout cas, de crevettes.
Et du coup, est-ce que le développement de ces élevages de crevettes bénéficie aux populations locales ?
Alors, oui et non. Oui, ça représente quand même beaucoup d'emplois. Et pour les ménages qui sont des salariés de ces exploitations, par exemple, c'est souvent la première, voire la seule source d'activité. Et donc, ça peut représenter un vrai bassin d'emploi important. En revanche, ce qui est dit souvent, c'est qu'il faut du capital. C'est-à-dire qu'il faut arriver avec des bulldozers, couper la forêt, installer des bassins, installer des pompes, etc. Et donc, c'est souvent pas la population locale qui installe ces fermes, qui sont propriétaires, ils se retrouvent salariés. Et du coup, une bonne partie de l'argent, de la ressource, de la valeur ajoutée que vous allez payer via votre consommation, va se retrouver d'une part chez les distributeurs, les traders, etc. Et chez, on va dire, les exploitants, les propriétaires. locataires. Mais la masse de la population qui travaille pour la production de crevettes n'en retire pas grand-chose, comme dans beaucoup de cas de production agricole.
Et vous avez calculé la valeur d'un hectare de mangrove par rapport à tous les services que nous évoquions tout à l'heure que cet hectare de mangrove peut rendre. Et là, ça rapporte beaucoup plus que la crevette finalement.
C'est ça. Il y a eu une étude de 1997, c'est assez vieux maintenant, mais dont j'ai fait la transcription en euros d'aujourd'hui, qui dit que le total de ce à quoi servent les mangroves quand elles fonctionnent bien, ça représente 232 000 euros par hectare et par an. Et ça, c'est notamment le fait que ça permet d'avoir des poissons, le fait que ça protège les gens contre les tempêtes, c'est-à-dire que la forêt absorbe l'énergie de la houle. Et par exemple, on a montré que dans les tsunamis qu'on a pu subir, les endroits qui sont protégés derrière des forêts de mangroves sont moins atteints. Et bien sûr, ça stocke le carbone. Ça, c'est les trois principaux services. Le total de ces valeurs aurait été estimé autour de l'équivalent de 232 000 euros par an et par hectare.
Alors, on voit de plus en plus les estimations comme ça des services écosystémiques, mais finalement, ça sert à quoi ? Parce que ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de chiffrer ça ?
Alors ça, c'est une bonne question. J'en suis pas sûr. Je pense que ça sert principalement à rendre les gens sensibles à cette question. Je ne suis pas sûr que ça fasse changer beaucoup de décisions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de lois ou de décisions dures, d'interdiction, de protection, etc., qui soient prises en utilisant ces chiffres-là. Globalement, ça sensibilise la culture, ça change la culture. Ça fait qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, ça c'est vrai qu'il y a 30 ans, on pouvait dire l'environnement c'est un truc pour se faire plaisir. Aujourd'hui, ce discours n'est plus possible grâce à cet ensemble de chiffres qu'on entend toutes les semaines, tous les mois, on entend un chiffre, la valeur de la grande barrière de corail, etc. etc. Ponctuellement, ça ne sert pas à grand-chose. Au total, ça diffuse une idée que ce n'est pas seulement pour se faire plaisir, c'est vraiment le substrat de notre vie, et donc on en dépend.
Alors justement, vous avez étudié trois pays en particulier, le Bangladesh, l'Équateur et Madagascar. Quelles sont les différences entre ces pays ? Parce que vous le disiez, c'est pas pareil partout.
Il y a principalement une différence, on va dire, de taille et d'extension. C'est-à-dire que au Bangladesh, c'est une culture qui est très importante, très étendue. La forêt est pas très bien protégée. En Équateur, on a un système moins intensif où on arrive plus à produire de la crevette en association avec des mangroves. On peut produire des crevettes sans détruire la mangrove, c'est possible, ou en détruisant peu. Et on trouve un peu plus de ça en Équateur. Et à Madagascar, on a plutôt une exploitation aujourd'hui qui est un peu expérimentale dans des zones assez restreintes, qui est dite relativement équitable et compatible avec l'environnement. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas allé voir sur le terrain, mais voilà, c'est un peu les trois grandes caractéristiques de ces trois régions.
Alors, si vous publiez ce rapport aujourd'hui, c'est pourquoi ? Pour alerter les consommateurs en Occident sur le fait que quand on achète des crevettes, il ne faut pas acheter n'importe quoi ?
Oui, c'est pour ça, c'est pour se rendre compte que on se focalise beaucoup, les Français notamment se focalisent beaucoup, et les francophones en général, sur l'huile de palme, qui est considérée comme la cause principale de la déforestation. Il ne faut pas oublier les autres causes de la déforestation, que sont le soja, la viande, le cacao, le bois, etc. Et puis, nous, on s'est dit, mais il y a peut-être une déforestation un peu silencieuse dont on ne parle pas assez, qui est celle des mangroves. Et donc, il ne faut pas oublier, dans les discussions et dans les politiques qui vont être prises pour lutter contre la déforestation qu'on importe via nos assiettes, qu'on n'oublie pas cette question, et notamment celle de la crevette et de la mangrove.
Merci Anne-Laurence.
Je vous en prie, à bientôt.
Vous pouvez retrouver cette étude détaillée sur le site de l'IDRI, idri.org. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Et rendez-vous demain, donc, même planète, même heure.